littérature de science-fiction, à défaut de prédire l'avenir, ouvre grand les portes de nos imaginaires, dystopie ou utopie. Qu'a-t-elle à nous dire aujourd'hui? Avec nous, le romancier Pierre Bordage, invité de la Grande Table Culture. Il est resté avec nous, invité à l'occasion de la parution fin mai chez Atalante du premier tome de sa trilogie Paris Métro 2033, intitulé Rive Gauche. Rejoint pour ce book club du vendredi par Alexis Broca, auteur de romans pour grands et d'une trilogie pour adolescents, La Mort, J'adore, rédacteur en chef adjoint du nouveau magazine littéraire, notre partenaire chaque mois avec un numéro de mai, toujours en kiosque, dédié à la science-fiction, Tous nos avenirs possibles, c'est le titre. Et en une du numéro de juin, Les livres pour revivre, on va en avoir besoin aussi. Bonjour à vous Alexis Broca.
C'est vrai. Bonjour. Bonjour Monsieur Bordage.
À mes côtés aussi.
Bonjour.
Bonjour. François Angelier, producteur de Mauvais Genre, les samedis soirs, directeur de collection, auteur de plusieurs biographies, dont une de Paul Claudel et une autre de Huysmans. Bonjour François.
Bonjour Olivia.
On s'est dit que le micro avait dû vous manquer un peu parce que vous nous avez manqué aussi.
Merci.
Mauvais Genre est confiné depuis mars. Qu'est-ce qu'on a manqué, François Angelier?
Ah, vous avez manqué une déambulation frénétique dans la grande exposition Louis de Funès de la Cinémathèque. Vous avez manqué une visite du laboratoire de Nathalie Latour. Mais je ne vous dis pas de quoi il s'agit. Ça, je garde le secret. On a surtout manqué aussi une émission sur Jean-Patrick Manchette avec trois nouveautés, les correspondances des chroniques, également le dernier polar de Caroline de Mulder qui paraîtra beaucoup plus tard. Donc plein de choses ont manqué, mais on revient, on reviendra.
Il y aura séance de rattrapage. On a vu au début du confinement le film Contagion de Steven Soderbergh, sorti en 2011 dans le top des téléchargements. Vous en entendez un extrait de la bande originale. Film sur la rapide progression d'un virus qui tue et qui tue très vite les personnes contaminées, sur la recherche aussi d'un vaccin, d'un remède pour sauver la population mondiale. Alors, est-ce que vous l'avez revu, vous, ce film, François Angelier? Est-ce qu'il faut lire, d'ailleurs, question à mes trois invités, de la science-fiction en période de crise, ou est-ce que c'est chaudement décommandé, François Angelier?
Ça dépend de l'humeur et de la mentalité de chacun. Il y a certaines personnes qui peuvent se désangoisser à lire effectivement des fictions post-apocalyptiques parce que ce sont justement des fictions et que après tout elles peignent des cauchemars, mais ça ne sont que des cauchemars. Au contraire, on peut lire des choses, des classiques. Alors le classique a cette vertu d'intemporalité, c'est-à-dire que si on relit La Fontaine, Flaubert ou Anatole France, eh bien on est dans une sorte de bulle comme ça intemporelle. On sort de la chronologie un peu. On est ailleurs, on est dans quelque chose de pas figé, mais bon, une sorte de musée. Donc ça aussi, ça peut désangoisser. Je pense que c'est plutôt une affaire individuelle et c'est à chacun de mettre en place sa thérapie par l'imaginaire et la littérature.
Pierre Bordage, vous nous parliez dans la première partie de l'émission de cette obsession pour la catastrophe, pour l'apocalypse dans les fictions qui nous amènerait presque aujourd'hui à relativiser la crise actuelle. Pour autant, vous avez-vous lu, relu, revu des livres ou des films de science-fiction pendant cette période?
Oui, comme d'habitude. En fait, ça dépend effectivement, comme disait François, du type de lecteur que l'on est, du type de personne que l'on est, puisque certaines personnes ne viennent pas dans la science-fiction justement parce que ça les angoisse. Donc, de toute façon, ces personnes-là, elles ont déjà perdu. Ceux qui ont l'habitude de lire de la science-fiction, en revanche, peuvent très bien lire, effectivement, des post-apocalyptiques sans problème, des mondes de zombies qui ont d'ailleurs, c'est une sorte de métaphore de ce qu'on a vécu. etc. Moi, ce que je préconise dans cette période-là de confinement, c'est le space opéra, parce que le space opéra, c'est le dernier refuge du merveilleux en science-fiction. C'est ce qui se rapproche le plus de la fantasy, je dirais, par à la fois les structures narratives et par le fait que l'on outrepasse des lois scientifiques connues, et qui ouvre ceux du merveilleux parce que ça nous fait découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux espaces, et que ça ouvre vraiment l'espace. Quoi.
Alexis Broca, vous en recommandez d'ailleurs aussi hein, des livres de space opéra, oui. et des livres qui ouvrent vers des mondes idéaux. Hein.
Oui, tout à fait. Ah bah, toutes les palettes, comme le disait François Angeli tout à l'heure, il y a toutes les palettes de nos cauchemars et de nos rêves dans la science-fiction. Et bon, pour ma part, moi, je suis tout à fait le lecteur que décrivait François Angeli, c'est-à-dire que dans cette période de confinement, ce dossier science-fiction, on l'a fait pendant le confinement. Et c'était extrêmement agréable de me replonger dans des grands space opéras comme le Hyperion de Dan Simmons ou Les Guerriers du silence de Pierre Bordage d'ailleurs, et de m'envoler, de m'évader comme ça. Je pense que la science-fiction a ce grand mérite de... Alors, on lui reproche parfois, mais elle fournit aussi une issue au monde, une issue à la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est vrai que quand j'avais 14-15 ans, que je n'étais pas toujours très heureux, j'en avais cet usage-là. Voilà.
Alain Damasio, que vous connaissez bien tous les trois, dit de la science-fiction qu'elle est un genre majeur parmi les genres, un art du présent, un art des présents. Pour lui, d'ailleurs, nous vivons aujourd'hui son âge d'or.
Je considère que c'est vraiment un genre majeur, la science-fiction. Je pense même qu'on a un âge d'or de la science-fiction aujourd'hui, c'est-à-dire que à partir du moment où le monde est vraiment anthropotechnique, la science-fiction est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Elle peut beaucoup plus finement que d'autres genres, beaucoup plus profondément sentir ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Et ce à quoi peut aboutir, voilà, par exemple, le génisme, ou je sais pas, je prends le ciseau génétique CRISPR-Cas9, qu'est-ce que ce ciseau génétique peut produire, inventer? Ça, c'est typiquement ce qu'un auteur de science-fiction va pouvoir développer. Il va mettre en scène des personnages, un avenir, un univers dans lequel le ciseau génétique fonctionne. Et ça, cette faculté, voilà, à créer un monde, à créer un récit, à mettre en place des personnages, à créer cette identification au personnage qui est un moteur incroyable, affectif, incroyable de la lecture, hein. Ça fait que vous transmettez des perceptions, vous transmettez des sensations, vous transmettez des affects. Et c'est souvent à travers les affects que les idées vont passer, qu'on va comprendre certaines choses. Si je vous dis, attention, le ciseau génétique CRISPR-Cas9, c'est dangereux, vous ressentez rien. Si par contre, je mets en place quelqu'un qui effectivement modifie son enfant et qui devient, voilà, mi-temps hybride et que ça modifie énormément de choses derrière, vous allez rentrer dans le récit et vous allez comprendre, ouais.
Alain Damasio, l'auteur des Furtifs, la nature humaine à l'aune de la technologie, Alexis Broca, pour vous, qu'est-ce qu'elle interroge avant tout la science-fiction?
Alors bon, c'est vrai qu'elle interroge toutes les potentialités de l'être humain, elle interroge la technologie, et en effet, nous vivons dans un monde où nous produisons des inventions qui semblent inventer leur propre usage plus tard. Je prends un exemple, on invente le GPS à l'origine pour guider des appareils militaires, et il se trouve qu'aujourd'hui, des amoureux se retrouvent à Paris grâce au GPS. Tout ça n'avait pas été prévu lorsque l'invention technique est sortie. Et la science-fiction, elle permet d'anticiper sur ces usages, elle permet d'envisager, en poussant très loin les curseurs du présent, elle permet d'envisager effectivement les usages ultérieurs qu'on pourrait avoir de la technologie. Et en effet, moi j'ai le sentiment que nous sommes très souvent dépassés par nos propres inventions, qu'en quelque sorte nos mains vont plus vite que nos cerveaux, nous fabriquons des choses et nous prenons après la mesure de la façon dont ces inventions vont nous modifier et modifier la société. Et pour nous renseigner là-dessus, la science-fiction a un rôle à jouer. J'aime pas lui assigner un rôle, mais en même temps on peut lui trouver ce bénéfice secondaire-là.
Des usages ultérieurs, dites-vous Alexis Broca, ou déjà présents, hein, on l'a vu durant cette crise, durant nos vies confinées, c'est Alain Damasio hein, toujours qui évoquait dans les pages de Libération cette police qui n'a pas à être le bras armé d'une incompétence sanitaire massive, ou encore dans Le Monde, ce monde encagé dans lequel nous avons vécu comme des animaux de zoo avec nourriture et fenêtres sur un monde virtuel. On peut pointer ces drones, cette nouvelle application, même si on n'est pas obligé de l'introduire dans nos smartphones. On peut voir effectivement la technologie entrer déjà largement dans nos vies, aussi pour les surveiller. Pierre Bordage.
Oui.
Sur cette entrée de la technologie, c'est ce qui vous a le plus troublé, vous, pendant cette période?
Oui, bah évidemment, la tentation de la séparation de l'autre, c'est-à-dire du tout virtuel, continue de se poser, parce que le télétravail va prendre de plus en plus d'importance, apparemment. Est-ce que ce sera une tentation qui se poursuivra? Est-ce qu'on on a une telle méfiance de l'autre qu'on sera sans arrêt retranché derrière des écrans? Je ne l'espère pas, mais c'est possible. Seul l'avenir nous le dira. Je ne pense pas que la science-fiction puisse prédire un quelconque avenir, parce que les avenirs sont par définition pas écrits et qu'ils peuvent prendre des tournures complètement inattendues. Mais c'est une littérature qui interroge le présent ou les courants en germe dans le présent. C'est-à-dire que c'est un effet fourmilière. C'est-à-dire que vous grimpez au haut de la fourmilière et vous mettez une loupe sur la fourmilière et vous voyez les mouvements d'ensemble de la fourmilière et tiens, vous dites, ah ben la fourmilière va dans cette direction ou dans telle direction. Si elle continue par là, c'est l'abîme tout droit. Si elle va par là, ça peut peut-être échapper à l'abîme, enfin, etc. Donc, c'est juste le saut dans l'espace et le futur permet d'avoir une vision plus pertinente du présent. Parfois, les auteurs tombent juste, parfois, ils tombent pas juste. Mais en tout cas, ce qu'ils interrogent, ce sont les préoccupations du présent, principalement. Mmh. Effectivement, comme la technologie entre et qu'on n'a pas le temps de la réflexion parce qu'il y a des impératifs économiques, c'est dans ces interrogations-là qu'on voit comment la technologie peut évoluer et influer sur nos vies.
Mais on aurait tort de toute façon de leur attribuer aux auteurs des rôles de devins. Ils sont pas là pour faire des prédictions non plus. Toute ressemblance fortuite avec la réalité, François Angeli, est-ce que vous, pendant ces 2 mois de confinement, vous avez eu l'impression parfois de revivre une situation que vous avez déjà vécue dans les livres ou sur grand écran? De quelle fiction s'est rapprochée un peu notre réalité?
Des fictions qui ne sont pas les fictions post-apocalyptiques ou les fictions de pandémie grandiose qu'on peut lire ici ou là. Enfin, je veux dire, aucun rapport, bien évidemment, avec la route de Cormac McCarthy, avec ses étendues à perte de vue de ruines grisâtres, hérissées, de tessons, de ruines, tout ça. Rien du tout. Au contraire, c'est l'espèce d'enfermement, de confinement. Ça m'a plus fait penser, je dirais, à des films comme Répulsion de Roman Polanski, où Catherine Deneuve, jeune fille perturbée psychiquement, s'enferme dans un appartement à Londres, et cet appartement devient une bulle cauchemardesque où tous ses cauchemars, toutes ses phobies, toutes ses terreurs s'exacerbent et se saturent jusqu'à la destruction et jusqu'au meurtre. C'est plutôt ça que ça m'a fait penser, effectivement. Je pense que ce qu'on a vécu est plus de l'ordre du psychologique, du psychosomatique, plutôt que de l'ordre, je dirais, d'un grand déploiement scientifique, de science-fictif. Si on peut citer une série, la série Silo de Hugues Ovet, qui était parue chez Actes Sud dans Exofiction, qui mettait en scène des espèces de silos souterrains dans lesquels l'humanité s'était confinée définitivement parce qu'à l'extérieur, rien n'était plus... Tout était invivable. Donc on n'en est pas là. Je pense que c'est pas du tout un univers à la Silo, c'est plutôt un univers polanskien qui nous a été offert là, je pense. Mais je voudrais...
Et bordagien, puisque c'est aussi bordagien, le thème de précédents romans, mais surtout du nouveau roman de Pierre Bordage, Rive Gauche, qui se passe dans les souterrains de Paris.
Voilà, ça c'est la...
L'idée étant de Dmitri Glukhovski, bien sûr. Mm.
C'est l'underground, qui prend le pas sur l'overground. Mais je voudrais aussi signaler quelque chose qui est quand même important, c'est le changement de statut de l'auteur de science-fiction. Si on prend les pères fondateurs, j'imagine pas que les gouvernements et les gouvernants de la Troisième République soient jamais allés voir Jules Verne pour lui demander « Maître, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Enfin, l'idée est absente. Et même ceux qui étaient à la fois des militaires de haut rang et des auteurs de science-fiction, comme Colonel Denry, par exemple, un des spécialistes des guerres futures, mort à Verdun, je pense pas qu'il ait confondu ses romans. Et bon, il y avait quand même à la fois des frottements, mais non pas des... Alors qu'aujourd'hui, effectivement, c'était déjà le cas du polar il y a plusieurs dizaines d'années, où justement l'auteur de polar français était devenu plus perçu au moins comme un conteur noir que comme un analyste social. Aujourd'hui, les auteurs de science-fiction sont démarchés par les grands quotidiens pour écrire des tribunes. Jamais on n'est allé voir Lovecraft à l'époque. Enfin, le pauvre était peu connu pour s'exprimer sur l'état de l'Amérique des années 20. Aujourd'hui, il y a au contraire une espèce d'écoute qui est celle des gouvernements et des infrastructures à l'égard justement de l'auteur de science-fiction qui a complètement changé de statut. Je veux dire, ça, c'est tout à fait évident, au point même, et ça a fait d'ailleurs un certain champ de perturbation dans le fandom science-fiction. science-fictif français il y a quelque temps, le ministère de la Défense a démarché des auteurs de science-fiction pour poser des questions sur les guerres futures. Ça, c'était alors ça crée quand même une espèce de grade, une mini crise, parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à ça. Donc je pense qu'il y a
vous avez été consulté. Ouais, Pierre Bordage, vous avez été consulté. Pierre Bordage.
Vous pouvez répéter la question, parce qu'elle a été coupée. Là.
François Angelier parlait de ces auteurs de fiction que le ministère de la Défense avait contacté. Vous avez été consulté?
J'ai reçu un mail auquel je n'ai pas donné suite, donc ça s'est arrêté là.
Bon, alors les trois maîtres, vous parliez des maîtres aussi de la science-fiction, François Angelier.
Oui, il y a longtemps.
Oui, mais justement, ils sont nés les trois il y a 100 ans. L'année 1920 fut particulièrement féconde. Le nouveau magazine littéraire retrace les portraits de ces trois maîtres du roman et de la science-fiction. Frank Herbert, Isaac Asimov, Ray Bradbury. Quels sont, à vous, à tous les trois, vos pères en la matière? À quelle chapelle vous appartenez Alexis Broca?
Oh bah écoutez, moi je reviendrai à mes premières amours, Bradbury et Herbert, bien sûr. Bradbury, lorsque vous le découvrez quand vous êtes jeune, vers 12-13 ans, c'est un vrai choc. Hein, et c'est un choc littéraire autant qu'un choc d'imaginaire, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la science-fiction compte de grands stylistes aussi, et Bradbury est pour moi un immense styliste, quelqu'un qui sait vous communiquer sa mélancolie. Et puis ensuite, bon, Frank Herbert, bien sûr, pour l'extrême sophistication de l'univers de Dune, cette façon de se glisser dans la peau de personnages fictifs appartenant à des ordres complètement inventés, la richesse de l'univers, voilà, tout cela comptait plus pour moi. Et puis c'est vrai qu'à l'époque aussi où je lisais cela, Asimov était plus prisé des élèves de classe scientifique et moi j'étais en classe littéraire, donc voilà, plutôt Bradbury et plutôt Herbert.
Pour vous Pierre Bordage, la réponse on la connaît un peu puisque votre révélation, vous l'avez déjà racontée, elle s'est faite avec les chroniques martiennes de Bradbury. Depuis, vous avez peut-être d'ailleurs changé de maître.
Oui, il y a une double révélation. La première année d'université où j'étais à Nantes et où le cours était consacré à la littérature américaine de science-fiction. Oui, c'est mon premier livre en fait de science-fiction, c'est Bradbury, c'est Chroniques martiennes. Et donc là, c'était vraiment le détonateur pour moi. Puis ensuite, ça a été renforcé par une autre explosion qui est celle de Dune. Donc là, je ne vais pas être original par rapport à mon camarade d'avant, mais Dune, pour moi, c'était vraiment extraordinaire. C'était mon premier livre, la première lecture d'un livre univers, et d'une telle richesse que c'était vraiment incroyable. Enfin, moi, je revenais pas qu'on puisse créer des mondes comme ça à partir de simples mots, d'une telle richesse. Puis ensuite, j'ai eu un troisième auteur qui m'a beaucoup marqué, pour d'autres raisons, qui s'appelle Orson Scott Card. Donc j'ai lu La Stratégie Ender et le space opéra qui s'appelle Les Maîtres Chanteurs. Et voilà, c'est un peu... Puis bon, un peu d'Asimov, un peu de Heinlein, un peu de Cordwainer Smith. Voilà, c'est là que se situent à peu près mes zones d'influence.
François Angelier.
Alors moi, je suis science-fictif, mais de façon un peu latérale comme ça. Donc moi, c'est d'abord Lovecraft par l'émoi profond et l'angoisse cosmique. Enfin, je veux dire le grand frisson, je veux dire le frisson sacré, ça a été Lovecraft. Et puis après, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Ballard. J'avoue que Vermilion Sands, avec ce mélange comme ça de la banlieue, comme ça cette banlieue désespérante, ces horizons étranges de Ballard, ça, moi, c'est vraiment. Et puis en plus toute la démence autour de Crash et tout ça c'est vraiment l'auteur qui m'a beaucoup plu, beaucoup saisi.
Dune, on attend d'ailleurs une nouvelle adaptation par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet au cinéma. Ce sera à l'automne prochain. François Angelier, et probablement peut-être, vous en parlerez, reparlerez.
Ben, certes.
Hein,
certes.
Dans Dune, mauvais genre.
Toute une histoire, cinématographique extrêmement mouvementée. On est ravis qu'il y ait un troisième temps dans cette histoire.
Voilà, considéré comme le film maudit de David Lynch. Le transpersonnage ou Snowpiercer, la série est arrivée fin mai sur vos petits écran sur Netflix, adaptation du film éponyme, lui-même adapté de la célèbre bande dessinée de Jean-Marc Rochette et de Jacques Loeb. Là, une solution a été trouvée pour résorber le manque de CO2, puis tout s'emballe. Retour à l'ère glaciaire, on écoute un extrait de la bande-annonce de la série.
What do you see when you look at this train? 3,000 odd souls surviving on a planet determined to freeze all life in place. And it is not thanks to chance or fate. It is because of order.
All this, you can't even share.
We each have our place.
Snowpiercer is all that's left of the world.
Our fortunes built this train.
What if I told you we could take down this train in one move?
Crush this mutiny now. Forever.
To the engine!
Commander, you can handle the fight?
Of course.
Order will be restored.
I'm fighting to do what I know is right.
And you will be executed for your betrayal of Snowpiercer.
Choo choo.
This train's dying, man.
You have to make sacrifices.
Today we remind them exactly who they locked up back here.
Once you pass through that door, there's no turning back.
BD, film ou nouvelle série, François Angelier, vous vous êtes laissé embarquer, quelle qu'en soit la version, dans le transpersonnage.
Ah oui, mais j'aime énormément ce type de fiction, d'une part parce que ça, là aussi, ça sature une situation. C'est-à-dire que se passerait-il si le froid, la chaleur, le vent, un peu bachelardienne comme ça, devenait la logique même de la planète. Parce qu'il y avait plus d'équilibre, il y a plus de rythme, il y a plus de saison, il y a une espèce de radicalisation dans la sécheresse, dans la tempête, les ouragans, ou dans le... et ça, c'est la question, c'est comment riposter, et cette espèce de création d'une sorte de folie circulaire ferroviaire, c'est tout à fait extraordinaire.
Le changement climatique, c'est un des thèmes pas majeur, mais important en tout cas, un des thèmes centraux de la science-fiction aujourd'hui. Beaucoup s'inspirent aussi de tout ce que soulève cette question des changements de notre environnement et du réchauffement climatique. Pierre Bordage, transpersonnage, ça fait partie aussi de vos références?
Oui, la BD et puis le film, j'ai lu tout ça. Oui, le changement climatique, évidemment, c'est une préoccupation qui est très importante et actuelle. J'ai d'ailleurs écrit une nouvelle cet été sur la biodiversité, la menace sur la biodiversité, qui est aussi importante que finalement le réchauffement climatique en lui-même. Une biodiversité d'ailleurs qui favorise l'apparition des virus, enfin la fin de la diminution de la biodiversité favorisant l'apparition des nouveaux virus. Donc c'était important de se pencher là-dessus. C'est vrai que c'est important de s'intéresser au climat, et urgent même, il y a une grande urgence, mais je ne sais pas si on a pris conscience de l'urgence, mais il y en a une. Et je pense que on doit avoir quelque chose d'intéressant là à la rentrée de septembre sur tout le changement et toutes les histoires de climat qui vont être réunies dans un recueil avec des scientifiques qui unissent scientifiques et auteurs. C'est-à-dire que la production de la nouvelle de l'auteur étant vérifiée scientifiquement par l'associé scientifique. Ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre de nouvelles perspectives pour les auteurs.
C'est la science-fiction qui va nourrir la recherche ou la science, comme jusqu'ici la science avait nourri la science-fiction. Des inversions quand même du rapport entre la fiction et la réalité.
Marc Caro qui a fait un film qui s'appelle Astro Boy, qui montre que le dessin animé Astro Boy est à l'origine de nombreuses vocations d'ingénieurs au Japon. Donc la vision d'un dessin animé de science-fiction a créé des vocations de scientifiques, de la même façon que certaines recherches scientifiques créent des sujets pour les auteurs. Donc c'est une sorte d'échange permanent avec les scientifiques.
Oui, en fusionnant le travail des auteurs de science-fiction et des chercheurs, il y a ce but affiché ou avoué de penser, d'inventer des mondes futurs, hein, en s'appuyant sur des connaissances réalistes. Alexis,
parce que les chercheurs nous disent toujours, ils sont limités par un budget, par des résultats, l'obligation de résultats, tandis que les auteurs ne sont tenus par rien du tout. Donc ça les intéresse de voir se développer une idée née de leur recherche, sans limitation de budget ni d'obligation de résultat. Et ça, c'est ça qui est... Donc ils sont très intéressés par l'imaginaire des auteurs de science-fiction en général.
Mmh. Alexis Broca, vous le rappelez dans vos pages, dans celle du Nouveau Magazine Littéraire, il existe une science-fiction gorgée d'optimisme aussi, hein, qui s'attelle à essayer d'inventer des mondes meilleurs.
Oui, c'est vrai. Il existe. Alors, la science-fiction est quand même, il me semble, essentiellement pessimiste. Mais en effet, il existe des science-fictions utopiques. Il existe des auteurs qui s'essayent à créer des sociétés utopiques. Mais alors, souvent, ces sociétés utopiques sont pas réalisées. Elles sont montrées à mi-chemin, en général, dans une marche vers la perfection. Et souvent, d'ailleurs, l'intrigue qui sera déployée sera une menace qui pèsera effectivement sur la réalisation de cette société utopique. Oui, bien sûr. Il y a notamment le Unil de Aldous Huxley qui est l'envers du meilleur des mondes.
Pardon, juste finir Alexis Broca et je vous redonne la parole, Pierre Bordage. Alexis Broca.
Non, c'est bon, j'avais terminé. Sinon, sur l'interpolation science et littérature de science-fiction, oui, il y a toute une branche de la science-fiction qui s'acharne à être crédible et qui se fonde vraiment sur les seules hypothèses formulées par les scientifiques. Alors, des hypothèses qui souvent ne sont pas réalisables techniquement, mais qui représentent des horizons lointains, et les auteurs les mettent en route. Je pense notamment à tout le cycle Mars la Rouge de Kim Stanley Robinson. Je pense aussi au livre d'un auteur chinois qui est en pleine ascension, qui s'appelle Yu Sixin, qui lui est obsédé de physique dure et qui truffe ses livres de notions scientifiques et qui essaie d'être le plus crédible possible, alors qu'il est très fantastique dans ce qu'il raconte aussi.
Pierre Bordage.
Je vais revenir sur l'utopie, puisque l'utopie c'est très difficile à écrire, pour la bonne et simple raison qu'une utopie, c'est-à-dire le bonheur pour tous, se transforme très rapidement en dystopie, parce que la définition même du bonheur est différente selon les individus. Donc il y a forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec la notion de bonheur qu'on leur propose. Et c'est extrêmement compliqué d'écrire une utopie.
Alors quelle est votre définition du bonheur ?
Ben justement, il n'y a pas de définition du bonheur, c'est chacun qui se la fait.
Oui, mais la vôtre, quelle est la vôtre, Pierre Bordage ?
Ben je ne l'ai pas encore trouvée, mais dès que je la trouve, je vous en fais part.
François Angelier, y a quand même aussi une peur du chaos, hein, à la Mad Max qui nous a bien occupés pendant ce confinement, hein, cette peur du chaos, de voir aussi les inégalités exploser, rejouer, voir se rejouer une forme de western moderne. Ça, c'est aussi une référence très présente dans la littérature et qui n'est pas passée incognito pendant cette période de confinement pour beaucoup d'esprits alertes, hein, sur ces questions-là.
Bah, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, les périodes de confinement a dépeuplé les rues, a vidé les magasins, a fermé les lieux de convivialité, que ce soit un petit café ou une aréna, une gigantesque salle de concert. Et puis là, que le déconfinement est à peine enclenché, les prononcer que il y a les énormes manifestations qui se passent suite à l'affaire George Floyd, comme si véritablement il y a un décongestionnement, la colère compressée, la colère confinée explosait, et qu'en définitive rien ne s'était éteint, mais que tout était en état de surtension. Donc c'est très étonnant de voir succéder ces rues vides à ces brusques manifestations qui emplissent l'espace social, et puis de nouveau on revide les rues, mais cette fois c'est un couvre-feu. Alors, les rues sont vides à New York par exemple, d'un côté pour l'urgence sanitaire et de l'autre pour le couvre-feu policier. Là il y a quelque chose qui se déroule, qui est tout à fait extraordinaire. Et je reviens sur la collaboration entre les scientifiques de métier, si j'ose dire, et les écrivains de science-fiction, les conteurs, les rêveurs. C'est assez étonnant parce que certains sont les deux à la fois. Donc je ne sais pas comment ils arrivent. Ce serait intéressant de voir comment ils parlent de l'articulation entre leurs travaux de laboratoire, les élaborations théoriques, conceptuelles extrêmement complexes à laquelle ils aboutissent, et puis le moment où brusquement, pfiout, les choses passent dans la fiction. Mais pendant très longtemps, moi je reviens à Jules Verne qui est un de mes dadas, quand Verne était lancé dans une fiction scientifique et que la science devenait un peu trop hard et un peu trop chaude, il avait des conseillers scientifiques qui s'appelaient Badoureau ou Garcet qui se suppléaient à lui pour, je dirais, lester d'un discours scientifique tout à fait, je dirais, entre guillemets, sérieux et authentique, les fictions qu'il imaginait. Donc, des fois, il y a des chapitres comme ça qui sont des enclaves scientifiques dans des fictions. Mmh. Et aujourd'hui, c'est très intéressant, cette idée de créer une sorte de tandem entre un scientifique. Il y a quelques années, l'édition Bayard ont retraduit la Bible. Alors, ils avaient mis un écrivain et un bibliste, un philologue, un hébraïsant. Alors, il fallait que l'un travaille avec l'autre de manière à éviter que le poète embarque le texte et éviter que le philologue assèche trop la traduction du poète. Alors là, c'est pareil. Faut que l'imagination, d'une certaine façon, arrive à s'articuler avec, il y a deux formes de démarches et que les deux démarches, eh bien, ça s'articule l'une à l'autre.
Mmh. La guerre des mondes, c'était une prouesse sonore, hein. À l'origine, il y avait un livre de Herbert George Wells publié à la fin du 19e. On se souvient de cette fiction radiophonique écrite par Orson Welles. Beaucoup y ont cru. Ça avait provoqué une vague de panique à l'époque où ça a été diffusé. On terminera rapidement là-dessus avec vous, François Angeli. Est-ce que nous, les médias, on n'a pas été un peu trop anxiogènes? Vous trouvez que les médias ont aussi jouer un rôle dans la crise, qu'ils ont alimenté la fiction d'une certaine manière?
Oh, pour alimenter la fiction, ce serait difficile puisque la fiction est déjà allée bien loin et va de plus en plus loin à chaque fois. Je pense que les médias ont dramatisé, solennisé de façon par moments un peu grandiloquente ce qui s'est passé, mais je pense pas qu'ils ont créé, ils ont créé, je dirais, d'autres formes de... Ils ont orchestré, dirons-nous. Ils ont pas du tout supplanté autre chose.
Merci beaucoup François Angeli. On vous retrouve demain pour Mauvais Genre, enregistré, oui. Rediffusion, avant, voilà, que vous retrouverez à la rentrée pour des émissions fraîches et vous avec nous parlerez joie de tout ce qu'on a manqué. Merci beaucoup à vous, Pierre, merci, Bordage, d'avoir été avec nous depuis midi à l'occasion de la parution de votre nouveau roman Rive Gauche aux éditions Atalante. Un grand merci à vous, Alexis Broca, de nous avoir raconté aussi, comme vous le faites dans ce numéro de mai du nouveau magazine littéraire, comment la science-fiction à la fois nous alerte, pointe les risques, mais peut aussi nous aider à trouver les voies du changement avec quelques étonnantes intuitions de nos auteurs de science-fiction, des scénarios pour dessiner un traité de savoir-vivre ou survivre à l'usage de toutes les générations. On les retrouve également dans vos pages. Merci beaucoup à tous les trois et merci à toute l'équipe de la Grande Table.